Et ben
en route.
Oui.
En route vers ce... Alors j'ai une photo là d'Edmund. Donc c'est vrai que c'est une photo qui circule beaucoup parce que elle est impressionnante. Enfin, c'est un regard impressionnant, puis on a l'impression qu'il y a une sorte de porte d'entrée vers son cerveau là. Donc voilà, c'est une photo qui est assez célèbre d'Edmond Husserl. On peut faire tourner. Allez. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous parler de sa philosophie. C'est vrai que moi j'ai rencontré Husserl pendant ma thèse d'anthropologie, parce que du coup je suis anthropologue aussi. J'ai travaillé les notions de connaissance, de savoir médical. Et donc je suis arrivé sur des auteurs comme Maurice Merleau-Ponty, et qui lui-même a beaucoup basé son œuvre sur Edmond Husserl. Après j'ai fait un travail sur Hannah Arendt, qui a été proche de Martin Heidegger, qui lui aussi a beaucoup été influencé, enfin en tout cas a fréquenté Husserl. Et donc j'ai commencé, j'ai une sorte d'intuition que c'était un auteur qui allait être important pour moi et pour le projet d'Ethnocafé. Et donc je vous parlerai des bouquins par lire ce livre-là. Et je m'y suis plongé pendant le confinement du Covid, où moi j'avais la chance de ne pas être confiné puisque j'allais travailler. Et pendant tout le confinement, tous les matins, j'allais en marchant à mon travail, au moins une heure le matin, à commencer à lire son œuvre. Alors Edmond Husserl, il est né le 8 avril 1859 en Autriche. Alors il est autrichien et il est prussien, donc allemand quasiment, enfin... Je ne sais plus trop l'histoire de la Prusse, mais je crois que c'était le nord de l'Allemagne à une époque. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur qui était mathématicien au départ. Donc il est rentré il était dans les sciences dures. Et dans ses premiers travaux, son projet était de refonder les mathématiques grâce à la philosophie, qui s'est intéressé à la philosophie. Alors je ne sais pas du tout quelle était son idée par rapport aux mathématiques, c'est pas du tout mon domaine. Et puis finalement, à force de travailler la philosophie, il a été influencé par Franz Brentano et Karl Stumpf, et il s'est consacré à la discipline pour en devenir prof de philosophie à Göttingen en Allemagne en 1901. Et puis à partir de 1916 et jusqu'à sa retraite en 1928, il a enseigné à l'université de Fribourg. Et c'est là qu'il a côtoyé régulièrement un jeune philosophe qui s'appelait Martin Heidegger. Il a continué à écrire, à dérouler sa pensée jusqu'à sa mort en 1938. Et donc l'Institut supérieur de philosophie catholique de Louvain conserve ses archives. Donc il y a tout un centre de recherche à Louvain où ses archives sont conservées et étudiées. Après sa mort, en fait, les archives ont été exfiltrées d'Allemagne parce que les nazis voulaient brûler son œuvre par un moine franciscain qui s'appelle Hermann Leo van Bruda. Alors, on dit souvent que Husserl est le père de la phénoménologie. En tout cas, le terme de phénomène était utilisé avant lui, notamment par le philosophe Kant dans la critique de la raison pure. Il utilisait déjà ce terme. Mais après, Husserl va vraiment théoriser la notion de phénomène et en faire une science, puisque c'est bien le mot qu'il faut employer. En tout cas, c'est le mot qu'il employait pour sa phénoménologie. Donc, phénoménologie, la science des phénomènes. Alors, les ouvrages... Alors, si vous voulez un abord un peu doux à son œuvre, il y a le livre de Emmanuel Housset qui est assez accessible. Je peux vous faire passer. J'ai un petit chat dans la gorge. Mais... Et après, donc la méditation cartésienne, c'est... Alors moi j'ai rien compris du tout la première fois que je l'ai lu, mais c'est intéressant parce que c'est une sorte de résumé de son œuvre. C'est le texte de deux conférences qu'il a donné à la Sorbonne à Paris, où il fait la synthèse un peu de ce qu'il entend par la phénoménologie, et notamment dans la cinquième méditation, il parle de la relation à l'autre, mais ça va être le thème dans 15 jours. Donc ça, si vous voulez vraiment commencer à lire Husserl, c'est une bonne porte d'entrée. On va faire tourner. Le gros bouquin, c'est les idées directrices pour une phénoménologie. Voilà, ça c'est le détail de son travail. C'est vraiment le centre là pour entrer vraiment dans le détail. Et après, dans la deuxième partie de sa vie, il a écrit un autre livre qui est connu, qui est surnommé Crisis, la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Donc là, il va plus être dans la deuxième partie de son œuvre, avec, alors c'est toujours très discret, mais quand même une réflexion politique sur la vie en commun. Bon, après, il est mort au début de l'Allemagne nazie, donc il a été, je pense, assez influencé par la montée du totalitarisme. Et donc il a fait une conférence à Vienne en 1935 où il parle de ça. Il parle de la maladie de la société européenne en écho à ce qui se passait en Allemagne. En 1935, pendant sa conférence, Hitler était au pouvoir. En tout cas, en 38, il y était. En 35, je pense qu'il devait...
Depuis
33, il était déjà... Voilà, et la Terre ne se meut pas. Ça, c'est le livre pour Janine. Donc on va en parler. Un drôle de petit ouvrage où Husserl défend le fait que la Terre est immobile par rapport au Soleil.
Le pauvre.
Alors voilà. Donc en fait, là je vais vous parler de ce que j'ai compris d'Husserl, mais Husserl c'est une œuvre absolument colossale, gigantesque, tellement gigantesque que c'est bien 300 000. En fait, il y aurait encore 300 000 pages de son œuvre aux archives d'Husserl qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas décryptées. Donc il y a certains qui disent qu'il était graphomane, ce qui n'est pas très joli, mais en tout cas il écrivait. Je pense qu'il devait, ça devait être sa méthode de travail, il passait sa journée à écrire. Donc c'est une œuvre absolument absolument gigantesque. Alors c'est vrai que c'est très difficile de lire Husserl. Je trouve que quand c'est difficile, c'est pas forcément que c'est un niveau intellectuel trop supérieur, c'est surtout qu'il a un vocabulaire, il a tout un vocabulaire technique, en fait c'est très technique, et donc il a tout un vocabulaire technique, et c'est vrai que si on n'a pas compris ces termes, ben en fait c'est assez inaccessible au départ, donc il faut vraiment passer...
Il y a un bouquin avec un dictionnaire.
Alors le problème, c'est que ces termes ne sont pas dans le dictionnaire, c'est-à-dire, on va le voir, en fait, ces termes ont d'autres significations, donc le petit Larousse n'est pas très aidant. Mais il doit y avoir des dictionnaires de phénoménologie, mais de philosophie, ouais. Mais en tout cas, quand on n'est pas du métier, c'est sûr qu'on bute d'emblée sur ne serait-ce que le terme de phénomène qui... Voilà, et après, on parle de... Enfin, lui-même désignait son travail comme une révolution à la Copernic, hein, c'est vraiment... C'est ce que je vais essayer de vous faire sentir ce soir, c'est qu'il y a vraiment une bascule dans le fait de penser le rapport à la réalité. Il y a une bascule dans le fait de penser la science. Hein. Husserl, son travail, c'est une critique de la science, une critique assez verte de la science, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y va assez franchement. Alors moi, avant de le découvrir, je crois que j'avais jamais entendu son nom. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez inconnu du grand public. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les philosophes qu'il a influencés, eux, sont très connus. Heidegger, Merleau-Ponty. Alors Heidegger a une pensée quand même plus indépendante. Merleau-Ponty, pour moi, il a vraiment reformulé l'œuvre d'Husserl dans son travail. Paul Ricoeur, c'est lui qui a traduit ce bouquin, je ne sais pas si vous imaginez. Donc Ricoeur et Levinas ont été très aussi... ils ont beaucoup travaillé son œuvre. Jean-Paul Sartre aussi. Et à l'ENS à Paris, qui est un peu le temple de la philosophie en France, il y a quatre laboratoires dans le département de philo, dont un qui est appelé les archives du CERN. Parce qu'apparemment, je ne connais pas bien l'histoire, il faudrait que je me renseigne, mais apparemment, Maurice Merleau-Ponty aurait amené des archives de Louvain à Paris, un peu sous le bras pour les étudier, d'où le titre du laboratoire de l'ENS. Et après, c'est vraiment la philosophie qui va fonder le travail de l'ethnocafé et du soin qu'on appelle poétique, mais qu'on devrait dire phénoménologico-poétique, et ce serait un peu lourd en termes de communication. Alors, j'ai pris des petits extraits du CERN que je vais vous lire un peu au long cours. Donc, je vous lis un extrait des méditations cartésiennes, là, du petit livre jaune. En premier lieu, quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. La philosophie, la sagesse, est en quelque sorte une affaire personnelle du philosophe. Elle doit se constituer en tant que sienne, être sa sagesse, son savoir qui, bien qu'il tende vers l'universel, soit acquis par lui et qu'il doit pouvoir justifier dès l'origine et à chacune de ses étapes en s'appuyant sur ses intuitions absolues. Du moment que j'ai pris la décision de tendre vers cette fin, décision qui seule peut m'amener à la vie et au développement philosophique, j'ai donc fait par là même le vœu de pauvreté en matière de connaissances. Alors, le vœu de pauvreté en matière de connaissances, enfin, curieusement, c'est ça, Husserl. C'est vraiment quelqu'un qui va amener à faire vœu de pauvreté en matière de connaissances. Alors, autant son œuvre, elle est très compliquée et conceptuelle, autant il appelle pas à un surdosage de concepts, il appelle à ce vœu de pauvreté de connaissances. Et je crois que, et c'est pour ça que, enfin, je pense qu'Husserl est inconnu aussi parce qu'il fait mal à lire. Ce qu'il raconte fait mal à lire. Puisqu'on est dans une société qui est basée sur la connaissance, le mérite, l'autorité du scientifique, l'autorité du politique. Husserl, il va démonter tout ça pour dire attention. Il a un petit côté Socrate, Husserl. Socrate qu'on salue, qui se balance là-haut, qui va être content qu'on parle de lui. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade avant qu'on rentre dans le dur?
J'ai l'impression qu'il propose pour le moins une démarche assez semblable à celle de Descartes, sa méditation et son discours de la méthode, qui est vraiment d'essayer de repenser tout ce qu'on pense avant. Enfin, c'est la démarche un peu du philosophe, mais de vraiment faire ce travail de faire table rase de tout ce qu'on pense connaître et de reprendre point par point ses idées sur le monde.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Alors moi, je connais pas très bien Descartes, mais en tout cas, il a basé le début de son travail sur Descartes. C'est pour ça que ça s'appelle les méditations cartésiennes. Après, il va plus loin que Descartes, notamment par rapport au fonctionnement de la conscience.
D'accord.
Il y a un autre anonyme au XIVe siècle qui avait déjà écrit Le nuage de l'inconnaissance. C'est-à-dire abandonner toutes les connaissances.
C'est comme ne pas avoir de préjugés un peu.
Oui. C'est ça.
De ce qui nous encombre peut-être, hein, de ce qui nous empêche d'aller plus loin.
De s'ouvrir.
Ferme.
Ouais. Ça me fait penser, je ne sais pas si c'est propre soin, mais à l'évoquer. L'accès aux patients directement sans théorie, sans... c'est assez rare a priori dans le traitement psychiatrique ou subpsychiatrique. J'avais entendu une émission sur France Culture où il y avait un centre qui avait cette approche là, plus humaniste.
Alors je rebondis pas parce que l'époquée c'est un concept du CERN, on va y arriver. Hein, donc, mais complètement l'époquée, qui est bien reprise en gestalt. Souvent, je l'entends en gestalt thérapie. Pour le coup, c'est un concept qui est défendu par Husserl. Je commence par le début. La phénoménologie, c'est l'étude du phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène ? Le phénomène, ça vient du grec pheino, qui veut dire « j'apparais ». Donc, Husserl l'appelle un phénomène, tout objet sensible, c'est-à-dire tout objet qui est donné par nos sens, mais également tout objet imaginaire, on y reviendra, mais on va partir des objets sensibles, qui est saisi dans sa façon d'apparaître. Alors, c'est très facile. Bernadette, on la prend toujours en exemple, c'est vrai. Donc Bernadette, c'est pas Bernadette, c'est le phénomène Bernadette pour moi. C'est-à-dire que Bernadette...
phénomène.
c'est des choses.
C'est mon phénomène à moi. C'est-à-dire que Bernadette, comme je la... telle qu'elle m'apparaît... Bon, là, je ne vois pas Bernadette, puisque... là, je vise Bernadette. Mes sens, mes yeux se fixent sur Bernadette. Bernadette m'apparaît. Elle m'apparaît pour moi, c'est-à-dire que de fait, Annick qui va la regarder, bon évidemment, elle va voir son profil, déjà, ça ne va pas être la même.
Ah, moi, je m'y tourne.
Voilà, après, moi, je la vois parce que bah, y a toute l'histoire, voilà, on en parlera, mais présupposé tout ça. En tout cas, voilà, le phénomène, c'est ce qui apparaît, mais ce qui apparaît à soi. Hein, le phénomène est toujours à soi. Hein, c'est-à-dire, l'image que j'ai de Bernadette qui m'apparaît, il n'y a que moi qui l'ai, je suis le seul à la voir, c'est le phénomène Bernadette pour moi. Ça vous parle ?
Oui, très bien.
Donc, le phénomène, c'est ce qui apparaît. La phénoménologie, ce n'est pas difficile, c'est l'étude des phénomènes. Donc, alors, j'ai fait un petit titre un peu accrocheur. Là.
C'est forcément quelqu'un, ça peut pas être un paysage.
C'est une nature.
Tout ce qui apparaît.
C'est ça.
Tout ce qui apparaît par les sens, c'est par l'imaginaire.
D'accord.
Même ce que tu imagines.
Voilà, c'est... Donc là, si je le phénomène, ben, c'est vous, c'est la bouteille de gazeuse, c'est l'ethnocafé, c'est ben, le cercle, la voiture qui passe. Ouais. Voilà, ce sont les phénomènes. Alors, bon, j'ai fait un titre un peu accrocheur de la soirée, là, entre sciences positivistes ou philosophie transcendantale, que choisissez vous. Alors, on va pas passer la soirée sur la science positiviste. Les sciences positivistes, vous voyez ce que ça veut dire. Donc les sciences positivistes et les sciences classiques, je mettrai aussi dedans, enfin on peut discuter sur l'anthropologie, mais moi j'aurais tendance parfois à la mettre un peu dedans. Enfin c'est des sciences qui, c'est cette façon de penser, enfin l'anthropologie je prends des pincettes hein, parce qu'il y a plusieurs écoles, mais en tout cas c'est ces scientifiques qui pensent que, en fait, on peut poser un objet sur une table, en faire le tour, l'étudier, et être capable de dire comment est l'objet. Donc cette façon de dire qu'on a un accès dans sa complétude à l'objet, en fait, ça, Husserl n'est pas d'accord avec cette chose. Donc pour Husserl, le fait de prétendre pouvoir connaître quelque chose dans son entièreté, c'est une naïveté, ça n'est pas possible. Ça interroge l'objectivité. Donc pour Husserl, il est catégorique là-dessus. Il dit l'objectivité, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Hein, donc en fait, toute science qui prétend être dans l'objectivité, pour Husserl, elle se trompe. Alors ça ne veut pas dire que les résultats sont nécessairement faux. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, on ne peut pas prétendre que un objet est décrit dans son entier et que tout le monde est d'accord avec cette description. Ça n'est pas possible. Donc Husserl invite à une science authentique à refonder cette façon de la science pour voir les choses autrement que par cette objectivité qui pour lui est un leurre, quelque chose qui n'existe pas. Donc il invite à revenir aux choses mêmes.
Situer les regards, du coup.
À revenir à ce qui apparaît, en fait.
Ouais.
Et finalement, la question, ça va être plutôt que de prétendre que Annick est comme ça, d'étudier bah, comment Annick va m'apparaître.
Oui, c'est en fait, y a 1000 Annick, il y a autant d'Annick que de personnes,
même plus,
puisque chacun a un
rôle de l'accord. C'est l'idée de situer les regards, de dire d'où on parle.
Voilà, c'est ça. Ouais, complètement.
Et d'où on perçoit.
D'où on perçoit. Et comment on perçoit les choses.
Comment on perçoit.
Puisque, de fait, on est condamné à percevoir, en fait. Mmh. On ne peut pas faire autre chose que percevoir.
C'est un empire de bon sens.
Voilà. Et du coup, bah, le côté... Alors, c'est assez facile à comprendre, il me semble, mais on est un peu tous spontanément... Enfin, non, j'en sais rien, mais... Enfin, moi, c'est une notion qui me paraît assez facile à comprendre. Mais en fait, toute notre culture, notre société est basée sur l'inverse. C'est-à-dire que les scientifiques, quand il faut faire autorité dans une émission de radio ou télé, on invite les scientifiques. Le sociologue qui va être à la radio, il va pas dire bah, « Écoutez, je vous dis d'abord, ça c'est mon regard sur les choses, ce que je vais vous raconter ne vaut que pour moi. » En général, il a un discours qui est présenté comme quelque chose d'universel. Donc ça n'est pas possible. Tout va bien sur le phénomène ?
Mmh. je suis poser une question. Mais
comment
je vais... pas tout à fait. Oui, mais enfin, mais continue.
On va arriver au soleil, Jenny.
Pas...
peut-être que je déroule un peu pour.
Oui, non.
Un verre.
À boire ?
Ouais,
oui.
Enfin,
bah oui, carrément.
Alors,
vous voulez une super toi. Oui, pardon, vous n'avez pas trop pesé à boire du coup. Et sinon, il y a des petits verres, autrement, il peut y avoir des gobelets en carton derrière. Alors, peut-être que je déroule un petit peu pour.
Oui, non, mais moi.
Je pense que tu vas mieux percevoir le truc.
Oui,
bah,
j'ai
après.
Du vin parce que.
Comment ?
Oui, on dirait qu'il a un problème avec la science, toi.
Ah ben il a un problème avec la science.
Ouais,
hein. Il a un gros problème avec la science.
Oui, c'est bon.
T'as la science, tu te poses un gros problème. Avançons un peu, puis je pense que peut-être que tu... Alors, je vais vous parler de plusieurs concepts pour essayer de... Bon après, voilà, c'est des choses compliquées. L'idée, c'est de vous faire ressentir un peu cette révolution de la pensée qui propose. Alors, il y a le premier concept, je vais commencer par le plus difficile, c'est là-dessus que j'ai le plus eu de difficulté, c'est le concept de l'intuition. Alors, l'intuition, je ne sais pas comment on pourrait le définir dans l'intuition, je trouve que dans le langage commun, il y a une sorte un peu de divination.
Pas de cause, pas de logique.
Comment tu le dis ?
Ça surgit.
Voilà,
ouais, c'est carrément. Quelque chose d'immédiat qui passe pas par. Une réflexion, ouais, c'est vraiment l'idée de ce qui nous apparaît, de ce qui nous vient à l'esprit de façon immédiate.
Oui.
C'est qu'on oppose immédiat à média en philosophie, justement. Que ça passe par la médiation de notre conscience.
Donc, c'est carrément ça.
Est-ce que je ne suis pas du tout ni philosophe, ni psychologue, ni rien du tout, mais je l'utilise dans d'autres concepts. Je dis l'intuition naît de l'expérience, ou est engendrée par l'expérience. Ah. C'est pas quelque chose de réfléchi. C'est faux, c'est.
Il est faux, mais je ne pense pas que soit son idée complètement comme ça.
Ah, oui.
Lui se méfie un peu de l'expérience, justement.
Ah bon.
L'intuition. Alors.
C'est ça qu'on peut dire que l'intuition ne vient pas non plus de nulle part.
Hein ouais.
Bah, après, l'expérience, si c'est de vécu, oui.
Elle vient du vécu. Ouais.
Oui, oui. Alors, il y a la notion du sens. Husserl, il dit que les choses nous apparaissent parce qu'elles ont un sens. Donc ça, c'est hyper important. Donc en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on ne voit que les choses qui ont du sens. Pour vous faire. Donc le sens, c'est. La conscience, finalement, est un acte donateur de sens à un objet. Alors, pour essayer d'illustrer ça, je me suis dit, je vais chercher quelque chose dans cette pièce qui est invisible parce qu'elle n'a pas de sens. Et j'ai trouvé la plaque de plâtre là-haut, je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà vue.
Oui,
j'avais déjà vu. Tu l'as vu une fois ? Ok. Alors moi, je la vois quasiment jamais, cette plaque de plâtre.
C'est ça
la grande plaque de plâtre, là. Oui. En fait, un des objets les plus grands de la pièce. Oui. Pour moi, elle est quasiment invisible. Je la vois quasiment jamais. Alors maintenant, je la vois tout le temps parce que je... et du coup, on pourrait imaginer que dans une autre société, dans les lieux de rencontre, il y a une grande plaque de plâtre, hyper connue, importante de se saluer sous la plaque de plâtre, parce que c'est le... Ben c'est là que se symbolise le lieu sacré. Et donc, voilà. Et du coup, ben, dès qu'on rentre dans une pièce, évidemment que la plaque de plâtre va être visible. Donc, en fait, pour lui, une fois qu'on vise un objet, l'objet se donne s'il a un sens. Et cette donation immédiate, effectivement, c'est ce qu'il appelle l'intuition. Donc l'intuition, c'est l'acte remplissant l'objet de sens, ce qu'il appelle l'acte intuitif. Bernadette m'apparaît parce qu'elle a du sens pour moi, parce que je la connais, parce que visiblement c'est une femme, parce que voilà, il y a tout le...
Soigne.
Voilà, il y a toute l'histoire. Voilà, l'objet se donne parce qu'il a un sens.
Je vois. Okay. C'est un peu comme il y a certaines... par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Bon, le Covid, maintenant, tout ce que c'est, je pense qu'avant la pandémie, on ne savait pas ce que c'était. C'est un objet, du coup, qui s'est rempli de sens, et maintenant qui fait partie de notre cadre de référence. Mais avant, ça existait déjà, sous d'autres formes, mais ça, c'était vide de sens du coup.
Voilà. Et quand il n'y a pas de sens, a priori, on ne voit pas la chose. Donc la chose n'apparaît pas. Et si elle n'apparaît pas, elle n'existe pas pour nous.
Elle n'existe pas pour nous, elle existe quand même.
Oui.
En tout cas, elle n'existe pas pour nous.
Oui, mais elle existe quand même.
Ben après, oui, bien sûr. Après, on ne dit pas que c'est irréel.
Oui, oui. Oui,
mais puisqu'on a accès par notre, on a accès au monde que par notre conscience, ce qui n'est pas accessible à la conscience, dans quelle mesure c'est notre réalité, tu vois, c'est... On va parler du soleil.
Et c'est pour ça que Janine met des jalons.
Voilà. Donc la vérité pour Husserl serait à trouver lorsque l'acte signitif, l'acte qui donne le sens, recouvre l'acte intuitif, l'évidence de l'apparition. Donc la vérité est à trouver dans l'évidence d'une signification remplie. Plus simplement dit, pas de vérité si l'objet n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se mettre d'accord sur quelque chose si on n'a pas un sens commun, si l'objet n'a pas de sens. Et plus important, ben, tout aussi important, pas de vérité si l'objet n'est pas présent. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait vérité, pour alors c'est un peu des évidences, mais pour qu'il y ait vérité, il faut que l'objet ait un sens et il faut que l'objet soit présent. Combien de fois on parle de choses qui ne sont pas présentes, en prétendant qu'elles sont vraies? Combien de fois, dans c'est tout le travail du politique, et de parler des choses... Moi j'ai travaillé dans les ONG auprès des populations précaires. Combien de personnes parlent des populations précaires sans jamais les avoir rencontrées? Donc pour qu'il y ait une vérité, il faut que la chose ait un sens. Si la chose n'a pas de sens, ça n'existe pas. Et il faut que la chose soit présente. Si la chose n'est pas présente, il n'y a pas de vérité. Encore une fois, ça paraît un peu simplé, mais ce n'est pas si simplé que ça. Puisque dans bien des cas, on est pris à l'inverse, à parler de la vérité sur une chose que peut-être qu'on n'a jamais vue.
Qu'est-ce que tu appelles vérité?
C'est ce qui est vrai pour Husserl. Ce qui est vrai, c'est quelque chose... Alors du coup, c'est là aussi un renversement. C'est quelque chose qui a un sens et quelque chose qui est présent. C'est vrai pour soi, tu vois. Et du coup, ça c'est pas forcément la vérité qu'on aura dans d'autres situations. En fait, Husserl fait une sorte de réduction du sens de la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce qui a un sens et ce qui est présent.
Et même si on a une connaissance, enfin, par exemple, si on a un ami en commun, qu'on parle de cet ami, ce n'est pas dans la vérité. Même si c'est une expérience commune de cet ami, par exemple.
Si ton ami n'est pas présent, ça va être une vérité très dégradée, parce qu'il n'est pas présent. Parler de quelqu'un qui n'est pas présent, c'est très très dégradé. Parler de mon enfant qui n'est pas là, donc je l'imagine à la maison, mais bon déjà, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là dans l'instant présent, je ne sais pas. Tu vois, parler de l'autre sans sa présence, c'est tout ce dont on va parler dans 15 jours. Pour être dans un lien de vérité avec quelqu'un, il faut être présent à la personne. Pour Husserl, si la personne n'est pas présente, la vérité, pour lui, il n'y a pas de vérité.
Ça veut dire aussi une nie toute transcendance.
Alors, on va parler de la transcendance, mais à sa sauce.
Oui, à sa sauce.
Tout ce qui est derrière moi, que je ne perçois pas, ça n'existe pas.
Pas vrai.
Mais ça pour nous, c'est vrai, parce que nous, on le voit.
Ça n'existe pas pour soi.
Ouais,
en fait, on
ne
peut
moi,
pas...
C'est ça.
En fait, le renversement, c'est qu'il... Et c'est en ça qu'en fait... qu'il dit, c'est qu'on peut pas parler de... Enfin, la réalité est toujours pour soi. C'est-à-dire que la réalité, nécessairement, c'est le fruit de notre conscience. Donc après, tout ce qui n'est pas... tout ce qui provient pas de notre conscience n'est pas vrai pour moi. Ce qui est vrai pour l'autre, on l'ignore. Et ce qui est vrai pour le commun... alors, on verra que la prochaine fois, il y a quand même un accès au commun. Mais en tout cas, c'est la vérité pour tous. Alors, si on est en communauté d'intérêt, de vie, de visée, c'est-à-dire que si on est très proche, on peut avoir du commun. Mais le commun au terme national, par exemple au niveau national, c'est une illusion. Et Martin Heidegger disait, on ne peut pas être en permanence des hallucinés de l'arrière-monde. Là, je pense qu'il reformule le travail du cerf. On ne peut pas être en permanence des hallucinés de l'arrière-monde. Signifie qu'on est en permanence des hallucinés de l'arrière-monde. C'est-à-dire qu'en permanence, on est halluciné, on est envahi par des choses qui sont l'arrière-monde. Et le monde présent, c'est le monde des phénomènes, c'est ce qui apparaît. Alors après, on a évidemment, on a le droit d'avoir ses pensées, Mais après, ce que dit Husserl, son leitmotiv, c'est revenir aux choses mêmes, sans cesse. Mmh. Attention, revenons à la réalité.
C'est lutter contre les représentations, en fait.
Mmh. Oui, en fait, ouais.
Parce que là, quand tu parles de ton enfant à la maison, c'est ton imaginaire, ta représentation.
Voilà.
Mais c'est pas, ça peut être la vérité.
Et c'est pas, en tout cas, c'est pas la vérité de
l'instant.
Alors après, il travaille la question de l'évidence. Donc il dit l'évidence. Donc pareil, hein, c'est en fait c'est ce qui est compliqué chez Husserl par rapport à la vérité. Tu vois, c'est qu'il va redéfinir tous les termes à sa sauce. Donc il faut arriver à se départir du sens des mots pour se ressaisir du sens qu'ils donnent. Mais c'est intéressant parce que ça permet de se mettre en mouvement sur ce qu'on pense être réel. Donc l'évidence pour lui c'est un vécu de vérité qui naît de la rencontre entre une signification de l'objet et le fait qu'elle se donne par l'intuition. Hein, l'évidence qui est évident, c'est un vécu de vérité entre le sens qu'on donne à l'objet et la rencontre de cet objet. Alors, le terme évident, pareil, on l'emploie à toutes les sauces. Bernadette, c'est une évidence que c'est Bernadette. Et personne ne pourra me l'enlever, c'est évident.
Bernadette, on ne pourrait pas t'enlever.
Mais après, je ne sais pas... ce gobelet, pour moi, c'est une évidence que c'est un gobelet, mais si quelqu'un peut contester, ben non, c'est pas évident, ben si, c'est évident, c'est un objet. Mais non, c'est pas évident, mais c'est évident parce que c'est l'objet qui a du sens pour moi et qui m'apparaît comme tel. Donc il n'y a pas à contester, c'est l'évidence, c'est ça. Et parce que, en fait, quand on se met à vouloir que l'évidence soit commune à tous, ben ça, c'est une illusion. Donc ça, l'évidence, c'est pas ça. L'évidence, c'est ce qui a du sens, c'est ce qui m'apparaît à moi.
J'ai l'impression que ça touche l'expérience aussi, que c'est pas que intellectuel.
Ah ben oui, en tout cas, oui, de l'expérience ou le vécu, enfin, il parle plus de vécu. Ouais. Après, l'expérience, je tique un peu parce que l'expérience, il se méfie un peu de l'expérience parce qu'il trouve que l'expérience, elle est peuplée de présupposés et de représentations. C'est-à-dire que quand on vit une expérience, on va la vivre par ses représentations et du coup, il faut se méfier de l'expérience. Donc il est dans ce vécu... intuitif, ce vécu premier, c'est ça qui l'intéresse.
J'ai juste une question. Le phénomène, pour lui, ça doit forcément être quelque chose de... Est-ce qu'une pensée, par exemple, peut être un phénomène de l'autre où la conscience s'apparaît à elle-même en tant que pensée? Est-ce que pour lui, c'est un phénomène ou est-ce que ça doit viser quelque chose dans le monde, quoi?
Alors, il parle de l'imaginaire. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais il parle le phénomène, c'est quelque chose qui apparaît. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit une pensée. Ça, c'est quand même une image, quelque chose qui apparaît. Donc après, l'évidence, donc la science, pour lui, donne sa définition de la science. Donc l'évidence de la science doit être, pour Husserl, basée sur l'intuition. Alors. Donc là aussi, l'intuition, pour lui, c'est le fondement de la science. Car c'est par elle que notre esprit atteint la chose même. La base de la science est la connaissance de la chose donnée dans sa présence en personne. Le scientifique, parce qu'après on parle de la science, mais la science, ça ne veut rien dire. La science, c'est ce qui est fait par les scientifiques. Les scientifiques, c'est une personne humaine, comme nous. Le scientifique vise les choses avec son sens personnel, toujours. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ce que dit Husserl, c'est que la base de la science, en fait, il voulait refonder les mathématiques, mais en fait, il veut refonder la science. La base de la science, ça n'est pas une objectivité qui n'existe pas. La base de la science, c'est cette façon personnelle de viser les choses et de faire apparaître les choses. Vous voyez. Et cette façon de faire apparaître les choses par sa propre conscience, évidemment, c'est inévitable, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne et ça doit être la base de la science. Ça ça vous...
C'est un sacré tremblement de terre, tout ça.
C'est un sacré tremblement de terre. Et en fait, donc, par rapport à la science, il dit... les scientifiques, leurs conclusions ne sont pas nécessairement fausses. Mais par contre, là où il y a une illusion, c'est dans le chemin à parcourir entre... donc c'est Georges Devereux aussi, moi qui m'a... Georges Devereux, c'est... il est en photo derrière. Moi, c'est lui qui m'a vraiment mis dans la piste de tout ça. Il a fait un ouvrage qui s'appelle « De l'angoisse à la méthode ». C'est un ouvrage de référence en méthodologie des sciences humaines. Et Devereux, il dit, en fait, dans une expérience scientifique, le plus intéressant, c'est pas l'observer, c'est celui qui mène l'observation. Parce qu'il dit, en fait, on a beau mettre des filtres, des processus statistiques, en fait, in fine, le gars qui a fait la super étude statistique, il est devant ses chiffres et in fine, il va interpréter. In fine, il va faire apparaître son monde par lui. Et ça ne peut pas être autrement. Donc, et en plus, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Le scientifique qui fait un travail, qui va arriver à sa conclusion, elle est vraie, puisque selon la définition du CERN, il a son sens, il fait apparaître les choses, il arrive à la vérité, effectivement. Mais c'est une vérité qui est dépendante de lui. C'est sa vérité, ça ne peut pas être autre chose. Même si on temporisera un peu la prochaine fois sur la construction du commun. Et donc c'est en ça que c'est quand même une philosophie qui est pas très facile à entendre.
Ça me fait quelque chose comme si c'est contradictoire avec l'esprit même des sciences qui sont tirées des règles générales sur le réel. Si c'est que subjectif, du coup, en quoi c'est une science, en quoi
c'est... Bah, c'est carrément problématique, mais en fait, c'est problématique. Ce que soulève le cercle, c'est problématique. C'est-à-dire que comment on peut arriver à prétendre si facilement à l'objectivité par des individus qui sont incapables de l'objectivité. C'est en ça que c'est quand on dit que les gens sont souvent un peu emportés par la philosophie du cerveau, parce que c'est une vérité assez simple, mais qui va remettre complètement en cause l'organisation de notre culture, qui est fondée sur le pouvoir scientifique. Le pouvoir scientifique qui va donner de l'ordre aux choses, qui va... C'est aussi assez rassurant d'avoir le scientifique qui va vous dire comment vivre, comment faire avec le Covid. On invite le scientifique, tout le monde est rassuré. Finalement, il donne un ordre politique avant tout. On est tous très contents. C'est très rassurant. C'est très facile, en fait. Mais en fait, malheureusement, malheureusement, c'est pas la réalité. Et ce qui est compliqué dans la philosophie du CERN, c'est qu'on va y arriver... il nous redonne toute notre liberté, toute notre souveraineté. Et après, je comprends que ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Alors ça, c'était la part la plus difficile. Après, ça va être... je trouve qu'après, c'est moins difficile. Après, on va dérouler un peu...
Je sais pas comment c'est en sciences dures. J'ai l'impression, en tout cas qu'en sciences humaines et sociales, actuellement, du moins, il y a quand même cette conscience en effet que notre travail n'est pas garant d'objectivité, qu'il y a toujours une empreinte de la subjectivité, que notre regard il est forcément influencé par notre époque, par notre expérience, par nos connaissances qui sont forcément parcellaires. Mais j'ai l'impression que c'est vrai que c'est l'idée des sciences comme garante d'objectivité, c'est toujours une idée qui est assez répandue dans le grand public. On peut entendre souvent c'est scientifiquement approuvé, c'est la science alors que moi, en tant que scientifique, j'ai l'impression qu'on toujours il y a des choses, ça fait bien sûr il y a certains communs, ça fait des décennies que, a priori, on pense que la chose est vraie, mais c'est toujours à un moment donné, rien ne dit que dans 10, 20 ans, on verra pas les choses autrement.
Ouais. C'est le principe de la science. C'est qu'on fait une hypothèse et elle est juste tant qu'on n'a pas démontré.
C'est ça, tant qu'on n'a pas démontré le contraire.
Après, je pense qu'il pose problème à Husserl, c'est dès qu'on sort de la subjectivité. Okay. Après, je ne veux pas aller trop dans la prochaine fois, mais après, il autorise l'intersubjectivité. Ouais. C'est-à-dire qu'il autorise cette apparition des choses et ce sens des choses, il autorise qu'elle puisse être vécue à plusieurs. Ouais. Et que le sens peut être commun et que l'apparition, la présence peut être commune.
D'accord.
C'est par contre, là où il bloque complètement, c'est sur l'objectivité et l'universalité des choses.
Et ça lui donnerait plus de poids si plusieurs personnes font apparaître la... Non, pas forcément.
Non, c'est un constat. C'est autre chose, c'est une apparition collective. Enfin,
Oui, c'est un constat.
Voilà. Donc la vérité restera toujours. La vérité, c'est relative. Toujours le sens et l'apparition pour toi. Elle peut être
partagée,
commune, mais ce n'est pas parce qu'elle est commune qu'elle est plus vraie.
C'est ça.
Donc les subjectivités qui sont a priori universellement communes, comme la pesanteur ou la gravité, pour lui, ça est dit, c'est. Quoi, c'est une hallucination collective, c'est...
La gravité, elle est, tu peux la reconnaître toi, mais peut-être d'autres vont le vivre différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'important, c'est que tu vives toi la gravité. Après, si tu veux, il ne dit pas que le monde n'existe pas. Hein. Tu vois, il ne dit pas que la gravité... Enfin, il ne dit pas que... Si moi, je ne suis pas pour X raison quelqu'un qui refuse, qui dit que la gravité n'existe pas parce qu'il ne la ressent pas, je sais pas, peut-être un voltigeur ou quelqu'un qui fait qui vole comme ça avec son, quelqu'un a tout à fait le droit de dire qu'il, pour lui c'est pas la vérité la gravité, mais de fait je vole et par contre c'est pas parce qu'il refuse la gravité que la gravité n'existe pas, tu vois,
oui mais ça reste une expérience personnelle, t'as un rapport à la chose qui est personnelle.
C'est-à-dire qu'on peut pas. Quand tu dis que la gravité existe pour tous, je sais pas. Tu sais pas ce que pense les autres, en fait. Tu vois. L'idée, c'est de les. Après, il n'y a pas. L'intérêt de cette soirée, c'est d'organiser un décalage. Tu vois, après, on peut tout débattre. Et puis, évidemment, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec sa philosophie. Mais c'est intéressant ta question. Pour Husserl, la gravité, c'est une vérité si tu la ressens toi, et ça peut être une vérité partagée si les autres la ressentent. Si tous les humains ressentent la gravité, c'est une vérité partagée, c'est une intersubjectivité. Comment ?
Tu vois, même si la gravité peut partir du postulat qu'elle existe, peut-être que chacun ressent la gravité différemment. Ouais. En fait. Et c'est ça qui fait la multitude d'expériences par rapport à un concept qui n'est jamais figé, en fait, qui est toujours dépendant de comment tu le vis, en fait. Ouais. C'est ça.
Enfin, notamment, on a pas mal évoqué la danse, et dans la danse, je pense que le danseur a une image de la gravité souvent très différente du tapis de 90 ans qui
peine à. Dans une assiette.
Alors, pour. Pour continuer, donc il y a un terme qui est important qui s'appelle ce que Husserl appelle l'attitude naturelle. En fait, l'attitude naturelle, c'est ça, c'est croire que croire qu'on est tous saoulés par la gravité, qu'on est tous l'attitude naturelle, il a défini. Celle qui postule l'existence du monde sans avoir besoin de le rencontrer comme si le monde allait de soi. Donc c'est un peu de ce dont on parle à l'instant. C'est les pauvres petits Africains, des gros trucs caricaturaux. Mais en fait, voilà, c'est tout ce qui, pour nous, paraît exister sans qu'on ait besoin de le rencontrer. Là, on a tous fait des discours sur la guerre en Ukraine, sur la guerre à Gaza. En pensant que c'est qu'on sait que c'est légitime, comme si ça va de soi, Husserl il dit, donc c'est tout à fait le discours aussi médiatique et le discours politique, hein, bon, je les ai un peu en ligne de mire, mais pour moi c'est vraiment le journaliste et le politique, un peu la caricature de celui qui va postuler l'existence du monde, l'existence des pauvres, l'existence des migrants, je sais quoi, sans avoir besoin de les rencontrer, comme si ça allait de soi. Et Husserl le dit, il faut vraiment s'affranchir de l'attitude naturelle. C'est vraiment l'effort à faire, c'est de sortir de cette pensée-là. Hein, encore une fois, la suite, là, ça va reformuler tout ce qu'on a dit au départ. Le monde ne va pas de soi. se passe chez moi, là, dans ma famille, avec mes enfants et ma femme, ça va pas de soi. Évidemment, je me dis, bah là, c'est le coucher, je sais pas quelle heure il est, ils sont en train de... Non, ça, tu peux te dire tout ce que tu veux, tu peux pas savoir ce qui est... C'est pas réel pour toi. Et donc, c'est important de s'extraire de toutes ces pensées pour retrouver le monde réel. Hein, c'est comme, pour reprendre la phrase de Heidegger, c'est important de réaliser qu'on est des hallucinés derrière un monde. C'est important parce que ça permet de retrouver le monde en soi. Et après, il y a évidemment des conséquences thérapeutiques quand la personne a l'impression d'être dans un monde qui la fait souffrir, qui ne lui correspond pas. Hein, combien de patients disent, mais enfin, oh là, mais qu'est-ce que la société est dure, qu'est-ce que, mais on le dit tous, et moi j'essaie de pas trop le dire du coup, mais avec le CERN, mais le monde est laid, voilà. Mais les gens disent ça tout le temps, et ils le vivent vraiment. Mais après, on peut faire ce travail-là de dire, mais puisque vous en savez qu'il est laid, est-ce que le monde, votre monde réel, c'est pas ce qu'on là maintenant, là, est-ce que c'est laid là maintenant bon après.
Ça peut être laid, hein.
Ça peut être laid.
Ça peut être laid, hein.
Ça peut être laid, mais pas toujours. Ça peut
pas
être bien.
Pas toujours, mais ça peut être laid, ça peut être beau, ça peut.
Ça peut. Mais dans ta vie de tous les jours, avoir, toi, dans ta vie de tous les jours, maintenant, quand tu vas sortir dehors, quand tu vas rentrer chez toi, avoir si c'est toujours laid, si c'est toujours bien, tu vois. Et tu vas peut-être réaliser. Alors après, il y a des gens qui doivent vivre dans un monde qui imagine que le monde est beau, tu vois, ça peut être l'inverse. Et je te dis juste, la personne qui est convaincue que le monde est laid, que ses hallucinations pour Heidegger et la laideur, tu peux lui dire, en fait, la réalité de l'existence, c'est ce qu'on vit là ensemble, tous les deux. Est-ce que c'est aussi laid que ce que vous mettez dans les images? Bon. Quand vous allez sortir dans la rue, est-ce que vous allez trouver cette laideur? La semaine qui vient de se passer, est-ce que vous... Tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, donc, Husserl invite à sortir de l'attitude naturelle pour s'affranchir de cette idée que le monde va de soi. Vous allez voir, ça va devenir encore plus intéressant après. Je prépare l'apothéose de...
C'est de la méditation, en fait.
C'est de la méditation, voilà. C'est un peu ça. Alors, pour revenir aux choses mêmes, pour quitter l'attitude naturelle, en fait, il fait une méthode. Il propose une méthode. Donc il ne nous laisse pas comme ça, il nous donne des méthodes pour y arriver. Donc il y a trois méthodes pour arriver à retrouver les choses mêmes et à se départir de l'hallucination de l'arrière-monde. Je vais insister sur une, un peu sur la deuxième et pas sur la troisième. C'est ce qu'ils appellent les réductions. Il y a la réduction phénoménologique, la réduction eidétique et la réduction transcendantale. C'est des gros mots, hein. Des gros mots. Alors, on arrive à l'époque. La réduction phénoménologique, c'est la première méthode pour revenir aux choses mêmes. En fait, mais encore une fois, c'est une reformulation de ce qu'on a déjà dit. Revenir aux choses mêmes, il nous invite à mettre hors jeu ce qu'il appelle le test du monde pour saisir seulement ce qui apparaît et étudier ainsi le fonctionnement de notre conscience. Hein, donc en fait, il invite à dire, bon, là... je vais me concentrer, voir ce qui apparaît et m'intéresser seulement à ce qui apparaît, et je mets entre parenthèses tout le reste et me dire que mon existence à cet instant, ça n'est pas autre chose que Bernadette qui est en face de moi. Et donc il invite à regarder les choses avec un regard neuf, se dire bon, ok, le monde est laid, bon, le soleil peut-être est immobile peut-être, mais toutes ces histoires, Agatha, c'est terrible. Toutes ces histoires qui peuplent ma conscience, la réalité de ma vie là, c'est ce qui apparaît. Et là, aujourd'hui, ma réalité, ça n'est que ce qui est réel pour moi, ça n'est que Bernadette qui me regarde interloquée.
Mais ce qui est très difficile, c'est de penser qu'on ne voit pas, je suis avec quelqu'un, je me promène, on ne voit pas le paysage de la même manière.
Ouais.
C'est
tout à fait
c'est différent.
Ouais. Du coup. Bah oui, en fait, il faudrait même avant, il faudrait même voir le regard, parce que là, je regarde votre œil.
Les formes,
oui, complètement. Oui, oui. Après, on pourrait complètement. Et après, donc, il invite donc la mise entre parenthèses de la réduction phénoménologique. Il appelle aussi pratiquer l'époque. Donc l'époque, l'époque. L'époque, c'est un terme que vous utilisez en Gestalt, je crois.
Oui.
Alors les pokés, donc voilà, c'est certains disent radicaliser le, mettre, suspendre son jugement, mais c'est plus que ça, c'est mettre entre parenthèses le monde qui n'est pas le monde qui apparaît. Alors bon, là aussi, ça paraît comme ça un peu curieux, mais il faut passer la surprise et puis peut-être y revenir. Par rapport aux soins, moi ça m'aide beaucoup, devant le patient, avoir une sorte de regard neuf, de voir le patient comme pour la première fois, de se débarrasser de bon, je sais qu'il est schizophrène, je sais que qu'est-ce qui m'a emmerdé la fois passée, mais il prend pas ses cachetons, ou il veut trop de cachetons, mais en fait il n'arrive pas à passer le deuil de sa mère, et tout ça encombre la vision, et en fait la seule vérité de ce patient face à vous, c'est la façon dont il vous apparaît.
À ce moment-là.
Dans cet instant-là. Mais ce moment-là est le seul instant réel de votre existence.
Mmh. Ici et maintenant.
Ici et maintenant. Oui. Mais avec un regard, dans se départir de toutes les idées qui arrivent, essayer de regarder avec un regard neuf. Évidemment, c'est une intention, mais en fait, c'est beau comme intention. Mmh.
C'est-à-dire débarrasser des présupposés aussi théoriques de la personne qui regarde.
Complètement.
C'est ça qu'après, quel point est-ce qu'on peut le faire,
c'est une expérience qu'on a tenté de faire, on l'a fait nous en formation, cette expérience.
À quel point on peut suspendre son jugement et s'abstraire de toute forme de catégorisation, parce que c'est aussi un processus cognitif d'essayer de rassembler les phénomènes dans des catégories en dehors de l'aspect culturel des catégories.
Et après, l'enjeu est énorme. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de voir la réalité de la personne. De rencontrer vraiment la personne. C'est ça, c'est pas juste un exercice de rigolo. C'est qu'en fait, l'enjeu, c'est qu'en fait, toutes ces... Je reprends encore le terme d'Heidegger, toutes ces hallucinations nous empêchent de voir la personne. Parce que la personne, elle est donnée avant même qu'on la rencontre. On l'a imaginée avant même qu'on la rencontre. Du coup, c'est plus la vraie personne.
On pourrait dire que c'est créer un espace.
C'est être dans une curiosité...
Cet espace où elle va apparaître. C'est créer un espace déblayé, nettoyé de...
Quand on est médecin, toi quand tu regardes ta personne, là, ton schizophrène, tu dis c'est le moment présent, là je le rencontre, tu es obligé quand même d'avoir, de penser à...
Le système d'attente qui s'active.
Hein? Pour le soigner.
Je pense que bien souvent, trop souvent, je soigne bien mal.
Tu soignes bien mal?
Bien mal.
Ça, c'est toi qui le dis, mais tu n'as rien.
Je suis sûr. Enfin, en tout cas, bien mal, je pourrais soigner beaucoup mieux.
Est-ce que tu te culpabilises par rapport à la pensée du Husserl?
Husserl, il change ma vie.
Il change ta vie, d'accord.
Ben, carrément.
Oui.
Husserl me fait comprendre que je travaille bien mal, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis humain, et que, en fait, il y a une façon, toute une façon qui s'ouvre de travailler mieux. Et on en parlera la prochaine fois. Parce que tu vas, en fait... un schizophrène, franchement, on met ce nom sur, je sais pas combien il y a de schizophrènes en France, on met ce nom sur 500 000 personnes qui n'ont rien à voir avec les autres.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. J'ai pris ton exemple, tu as une fausseté.
Et après, en médecine, après, je te donne la parole, on va peut-être faire une soirée, on essaie de monter une soirée sur la psychiatrie avec France Fanon. Je pense que la psychiatrie pose problème. Mais pose vraiment problème. Et que, et je laisse Manito en route, qu'il y a probablement des fois où c'est bien. Il y a probablement des fois où c'est pas bien. Je pense qu'il y a plus de fois que c'est pas bien que c'est bien. Parce qu'il y a toute cette culture du diagnostic, de voir la personne avant même qu'on l'ait vue. Tu vois,
C'est enfermant.
Mais ça, c'est même dans. Pas quelqu'un qui a mal à l'épaule, on va tout de suite mettre tendinopathie de l'épaule, et ça fait rentrer dans un cadre kiné, anti-inflammatoire, c'est vraiment enfermé dans quelque chose, je trouve, c'est réduire
les arbres de décision.
Alors après, ça veut pas dire qu'il faut se paralyser et ne plus rien faire. En tout cas, évidemment que la pensée du CERL travaille plus le soin psychique, en tout cas, on pourrait étendre ça au soin.
Vas-y, Annie. Moi, je pensais à Durkheim, il parlait des sympas.
Des quoi?
Des cinq pas du médecin. Et qu'il y a un pas, on en passe par là, laisser tomber toutes ses connaissances. Et c'est tout tombé. Et après, il revient quand même. Mmh. On peut lui faire revenir, ouais, mettre un temps hors temps, quoi. Enfin, hors temps de,
ouais, je comprends l'idée.
D'encombrement, de, pour essayer de donner de la place à autre chose. Mmh.
Et ça, d'essayer d'abord, bien, dans un premier temps, au moins, de mettre de côté tout ce qu'on pense savoir, et d'être. Ouais, de se concentrer sur ce qui nous apparaît justement sur les phénomènes. Je comprends l'intérêt de la démarche.
Et peut-être faire jouer l'empathie. Hein.
Ça chauffe, ça. Là.
Ouais. Ça me donne chaud. Hein.
Ça me donne chaud. d'autres remarques avant qu'on continue?
Après, je traduis la citation sur ton t-shirt. Parce que
ah oui.
La pampaïla.
C'est du finlandais.
Du finlandais, je sais.
Je vais faire une pause. En fait, c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans un musée où c'était une exposition sur un médecin généraliste qui était très connu en Finlande parce qu'il était, affreux avec ses patients. Et du coup, il était aimé pour ça parce qu'il était drôle en fait. Et il cassait ses patients. Il disait mais à vous, mais c'est le cercueil, il a votre truc, c'est le cercueil. Et donc, il y a eu un report. Donc, en fait, à sa mort, son fils a fait un reportage sur lui et puis il y a une exposition sur lui. Et donc, ça, c'est une de ses phrases. Et alors, il dit. De l'extérieur, ils ont l'air d'aller bien. De l'extérieur, ils ont l'air d'aller bien. Ça, du coup, je raconte ça parce que ça a trait aussi à ce qu'on raconte là. Donc, première méthode pour revenir aux choses mêmes et se départir de l'attitude naturelle, la réduction phénoménologique, essayer de regarder les choses en mettant entre parenthèses tout le reste. Alors, bon, je ne veux pas être trop long. Donc, en fait. Je vais faire un petit aparté sur ce petit livre-là, La Terre ne se meut pas. Donc en fait, dans ce livre, mais je pense qu'à mon avis, il s'est beaucoup amusé à l'écrire, en fait, il remet en cause la vision de Copernic du monde en disant, mais non,
ma réalité.
Le soleil, ma vérité. Fait, le soleil, il n'est pas fixe, il se lève et il parcourt le ciel, il parcourt l'espace. Et il dit que ce qui est fixe, c'est la Terre. Et que séparer nos convictions intellectuelles et nos perceptions corporelles est un problème qui nous rend un peu marteau, qui nous déboussole. Donc il dit pourquoi on s'intéresse à. Enfin, pourquoi on voit les choses comme si la Terre était un objet, qu'elle tournerait, alors que de fait, tous nos sens nous disent l'inverse. Et donc c'est ça qu'il dit. Et il dit en fait, si on perd le fait que la Terre est notre ancrage et qu'on est sur Terre et que c'est par cet ancrage-là qu'on voit le monde, si on perd cette notion-là, ben on se perd et on perd notre ancrage et probablement qu'on se met à mal aller. Donc voilà, mais je vais pas.
Donc ça veut dire qu'il nie la cohabitation de deux regards. Le regard de la réalité ici et maintenant. Et le regard d'une compréhension technique.
En fait, je pense qu'il dit simplement, mais parce qu'en fait, le
oui, hiérarchise.
C'est comme quand vous êtes dans deux voitures et que vous êtes dans votre voiture et que vous voyez un train bouger. En fait, qui est le fixe en fait? C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait. Oui. Non, mais même de façon physique, on pourrait tout à fait dire que tu vois que la Terre. Considérer que la Terre est fixe et que tout le reste tourne autour. C'est aussi vrai que.
On est en train de bouger là en fait.
Mon sujet c'est. Par exemple, celui qui est dans le wagon, effectivement il voit la Terre qui bouge, okay, et le wagon est fixe. Et celui qui est sur Terre, il voit autre chose. Donc ce qu'il dit c'est qu'il y a bien deux réalités, puisque deux personnes positionnées à deux endroits différents ont une réalité différente. C'est bien ça qu'il dit.
Oui, en fait, je pense qu'il dit que c'est pas très bon pour la santé. Après, il le redira plus tard pour d'autres choses. Je pense qu'en fait, ce qu'il dit, et je pense qu'il est loin d'être bête, tu sais, je pense qu'il a écrit ça en s'amusant et en provoquant. Ouais. En fait, le message, et moi je l'entends comme ça maintenant, c'est pas très bon pour la santé de ne pas faire le choix de nos perceptions sensorielles. Parce que quelque part, faire le choix de concepts qui sont intellectuels, qui sont beaucoup plus éloignés. Pourquoi est-ce que c'est pas plus prudent de faire le choix de nos perceptions sensorielles? Parce qu'après, on se perd dans l'astrophysique, mais on peut se perdre dans l'objectivité, on peut se perdre dans le naturalisme et tout ça. Et en 1935, lors de sa conférence, il dit haut et fort que le drame qui allait se produire, c'était le fait que c'était dû à l'objectivité et au naturalisme. Donc en fait, si vous voulez, il dit que en fait, la perte de ce monde réel et du monde des sensations et la perte des choses est quelque chose qui n'est pas bon pour, je dis la santé, mais qui n'est pas bon pour nous, en fait. C'est ce qu'il avance.
Ça me fait un peu penser qu'on a, pour x ou y raison, que ce soit gueule de bois ou vertige ou quoi, et qu'on voit le monde autour de nous, enfin la pièce autour de nous tourner,
ouais.
Bah, notre réalité du moment, c'est la pièce qui tourne.
Complètement.
On pourrait dire, bah non, il y a des murs, machin, etc. Mais pourtant, on vit cette expérience de tout tourne, quoi.
Et là, il serait d'accord avec toi, Issa.
Ouais.
Ouais, si tu dis, bah en fait, non, c'est la pièce qui tourne, et bah oui, ça, ok, c'est la vérité. Et de même qu'il y a des. Encore une fois, on a travaillé pas mal sur la danse. Il y a un danseur américain là, qui s'appelle Steve Paxton, qui est chercheur aussi. Et en fait, il invite, moi j'ai fait l'expérience, à faire des roulades. Tous les matins, une fois par jour, à faire une roulade. Donc moi, pendant un temps, tous les matins, je roulais dans un parc public, les yeux ouverts. Et en fait, si vous roulez en permanence, pourquoi pas, on pourrait rouler en permanence. Mais en fait, tout est complètement différent. C'est-à-dire que le ciel est là. Enfin, il n'y a plus ce ciel et la terre. Donc en fait, il y a une sorte d'arrondi qui. Parce que c'est en fait. Je pense qu'il y a peut-être des animaux qui vivent comme ça, mais en fait, si vous roulez en permanence, tout change en fait. Alors, effectivement, parce que quand on fait une roulade, il y a une sorte, d'arrondi qui se crée, enfin, je sais pas comment dire, il y a une perception complètement différente des choses. Et le mec qui fait sa roulade, s'il vient là en disant, mais non, mais le monde il est arrondi, le ciel il est en haut, puis après il est en bas, vous allez le prendre pour un taré, mais non, il est dans la vérité. Dans sa vérité, mais.
Dans sa vérité du moment et dans l'action, comme il fait des roulades.
En tout cas, personne ne peut lui dire qu'il a tort.
Ah oui, c'est par rapport à ce qu'il vit. Ouais. Par rapport à ce qu'il vit.
C'est un peu
d'accord.
Comme la grotte de Platon.
De Platon.
Et est-ce qu'il parle du mental? Parce que je disais mental, ouais. Avec menteur, ça a la même racine. Notre mental, quelque chose qui se passe dans notre tête. Ça serait de l'ordre du menteur, quoi. Quelque chose qui nous ment.
Mais c'est donc ça.
Qui nous induit pas vers la réalité.
Ou qu'on n'interprète pas
le réel. C'est ça, démence, c'est mental.
En tout cas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'a pas de sens et qui n'est pas présent n'est pas la vérité. Donc on pourrait penser que c'est une. Peut-être que tu appelles le mental.
Moi, je voulais juste dire, ça me fait peur un peu des fois ce discours, comme par exemple aux États-Unis, on remet en cause le changement climatique. Et comme s'il y avait un nivellement de la vérité où j'y crois pas, c'est ma vérité. Et du coup, ça met sur un pied d'égalité et comme si toutes les vérités se valaient. Et du coup, on ne sait plus quelle info est juste. Hein, ça, c'est comme si. Ça fait quelque chose. Enfin, moi, ça m'effraie. On peut affirmer comme ça, il n'y a pas de changement climatique. Il y en a qui croient que la Terre est plate, aux États-Unis, qu'il y a des créationnistes.
C'est parce que pour moi, je suis complètement en ligne avec ta remarque. C'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, c'est que Charles, il réfléchit pour la position de chaque personne, la santé de chaque personne. Et il ne parle pas de commun. Comment dire, qui serait déterminant pour notre santé ou l'avenir pour l'instant.
Ouais. Pour l'instant, mais si, pour l'instant, il en parle, voilà. La prochaine fois.
Non, pour l'instant, il n'en parle pas. Donc, effectivement, c'est pas avec de la somme de regards qu'on fait un projet commun. J'ai tout à fait d'accord avec toi. Pour l'instant.
Après, on peut trouver une solution dans la présence aux choses. C'est-à-dire celui qui va avoir un discours sur le réchauffement climatique qui n'est pas présent, qui n'est pas la curiosité d'être présent à ce qui se passe, tu vois. J'imagine qu'il y a des scientifiques qui mesurent la glace, il y a des gens qui voient des choses. Tu vois, et puis il y a des gens qui voient. Bah, c'est sûr que. C'est moi aussi. Si on n'a pas l'œil dans ce sens-là, effectivement, à un moment.
Le paysan américain qui sort dans les grandes plaines et qui regarde à droite et à gauche, il y a 2000 km d'un côté et 2 km de l'autre de nature, il ne voit pas la pollution. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne lui parle pas. Par contre, celui qui habite New York, il voit la pollution.
Oui, après,
il peut avoir. Il a un problème de santé à cause de la pollution. Donc, c'est sûr.
Mais après, encore une fois, l'idée, c'est de. l'accroche, c'est la réalité qui apparaît, tu vois, les choses qui apparaissent. Et dans tous ces discours politiques et dans tous les sens, ce qui manque, c'est souvent ça. C'est-à-dire que les gens parlent, mais sans avoir. Sans, ils sont un peu hallucinés derrière, bon, c'est-à-dire. Bon, effectivement, il y a des domaines, la fonte des glaces, tant que t'es pas devant la glace avec la fonte des glaces, c'est quelque chose qui est une réalité altérée, parce que tu la vois pas.
C'est pas une réalité pour moi, parce que je ne la vois pas, mais réellement, elle existe quand même.
Ah, je sais plus.
Non,
mais c'est-à-dire... non, mais après... Mais
comme il dit, comme je ne la vois pas, moi, je suis pas... Je ne la regarde pas, je ne la vois pas. Donc pour moi, normalement, elle n'existe pas. C'est ça un petit peu qu'il dit. Il faut que on soit en présence.
Ah, ils disent que ce que tu peux affirmer toi comme réel, c'est quelque chose qui t'est donné par les sens et parce qu'il t'apparaît.
Oui, donc si je ne la vois pas...
Et il ne faut pas dire à l'autre quelle est la réalité.
C'est
ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, dire à l'autre, si le monde est comme ci, comme ça, ça ne marche pas. C'est pas... sous réserve de des histoires d'intersubjectivité qu'on verra la prochaine fois.
Ah oui.
Mais je crois qu'en fait le message de base, c'est que en fait ce qui est vrai pour toi vient de toi, et ce qui est réel dans ta vie, ça vient de toi.
Oui.
Est-ce que du coup, en partant de cette pensée-là, ça pourrait expliquer justement un peu le désarroi de toutes les personnes qui alertent sur le changement climatique, parce qu'on est peu à vraiment le vivre. Enfin, nous, on peut se dire, il fait un petit peu plus chaud l'été, ou un peu. Mais en fait, vraiment, le mur qu'on est en train de se prendre, que tout le monde dit, on ne vit pas ce mur-là, dans notre quotidien. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui sont vraiment confrontés à quelque chose de dramatique, et encore, je fais une réalité, en tout cas, je peux parler en jeu. Moi, dans mon quotidien, il n'y a pas des changements drastiques en lien avec l'environnement climatique. Est-ce que ça peut être relié à ça?
Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui souffre de cette notion-là, tu vois... En fait, on ne peut pas vivre asphyxié toujours par une idée que le monde est en train de se détruire et se couper de cette réalité que quand tu vas dans la forêt, c'est beau, tu vois. C'est-à-dire, moi je suis d'accord avec l'idée que les choses peut-être vont dans le mauvais sens. Mais après, cette pensée-là ne peut pas être complètement déconnectée que le fait... Enfin, moi j'ai grandi à la campagne, des fois je retourne là où j'ai grandi, il n'y a pas de différence, tu vois. Alors après, peut-être des scientifiques vont me dire qu'il y a moins d'insectes, mais j'en sais rien, je ne vois pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est quand même un peu réconfortant de dire, certes, il y a peut-être des problèmes, mais en tout cas, partons de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la campagne, elle était belle quand j'étais enfant, elle est belle encore maintenant.
Mais c'est ça qui me semble, et c'est ça qui fait que j'ai l'impression que, après, peu importe quelle est la réalité dans le discours climatique d'alarme actuellement, mais j'ai l'impression que c'est difficile de rejoindre ce discours-là dans le vécu parce que on le vit pas. C'est ça que j'ai un peu l'impression de. Ah, bah. Mais du coup, je rejoins. Enfin, on le vit pas. C'est un peu exagéré, mais.
Mais je crois que c'est aussi pour ça que c'est plus difficile à convaincre la majorité sur toute la planète de, par exemple, de faire des actions pour éviter le changement climatique, parce que c'est pas réel pour tout le monde et c'est pas si concret. Peut-être pour certaines personnes, c'est très concret.
Vanuatu, par exemple. Vanuatu, par exemple.
Oui. Mais vu que, par exemple, pour ici, on est plutôt aussi dans le confort, et c'est pour ça, ce qui nous fait bouger, c'est souvent quand ça nous touche réellement dans notre quotidien. Et donc, il faut s'imaginer cette réalité future qui est présentée dans un discours, comme notre réalité la plus proche, pour rejoindre ce discours.
En tout cas, peut-être qu'on peut retenir l'idée que, en fait, c'est toujours important de revenir aux choses mêmes. C'est-à-dire, de toute façon, après, on n'est pas sans discours, sans pensée, sans idée, mais peut-être qu'à un moment, quand même, il faut revenir aux choses mêmes. Et que quelque part, je pense, en tout cas en thérapie, on avait fait une soirée avec Jean-Marc Gitti, là. En fait, à un moment, le fait de revenir au lieu, de s'attacher à un lieu, par rapport aux histoires d'écologie, le fait de vivre l'amour du lieu, la santé du lieu, c'est peut-être le point de départ pour avoir envie de ne pas l'abîmer, tu vois. Et en tout cas, et puis voilà... Enfin, on peut être inquiet de la planète, on peut trouver que ça va mal et tout ça, mais il faut aussi reconnaître que quelle est la réalité, que là malgré tout ça va. Ça ne veut pas dire que ça va dans sa globalité, mais ça peut permettre aussi peut-être de détendre des discours qui, quand ils se tendent trop, sont aussi délétères. Tu vois, s'il y a trop d'agressivité d'un côté ou de l'autre.
Ça ne permet pas de voir les deux.
Et pour lutter contre l'anxiété aussi, c'est une bonne chose d'en revenir à ce qui est présent. Et parce que si on est toujours trop anxieux, au final, c'est plus bloquant qu'autre chose. Si on veut ça.
On ne sent plus, on ne voit plus personne.
Alors, du coup, je vais amener la solution à tout ça. je vais arriver au point d'orgue. Je vais vous dire la solution.
La solution.
Donc c'est
la solution finale.
La solution pour que le monde soit meilleur. Donc en fait, Husserl, il parle beaucoup de l'intentionnalité, la théorie de l'intentionnalité. Alors, quand je vise Bernadette, et que Bernadette m'apparaît parce qu'elle a un sens, c'est ce qu'il appelle l'intention. C'est-à-dire que l'intention, c'est la visée qu'on donne au monde, la façon dont on vise le monde. Quand là, je décide de te regarder, je mets mon intention sur toi et tu apparais. Hein, donc l'intention, c'est la visée sur les choses qui font que les choses apparaissent. L'intention est la visée de notre conscience vers la chose réelle ou imaginaire. L'objet se donne comme quelque chose qui fait sens. Alors, par l'intention, ça c'est hyper important. Hyper important. Par l'intention, donc les données sensorielles se donnent à ma conscience. Plusieurs données sensorielles vont se donner. Elles vont Husserl a le joli mot d'esquisse. C'est-à-dire que quand je vise quelque chose, il y a une donnée sensorielle qui apparaît, c'est une esquisse. Donc il y a plusieurs données sensorielles qui vont apparaître, elles vont fusionner. Et du coup, elles vont constituer la réalité. Elles vont créer notre réalité. Donc en fait, l'acte intentionnel crée le monde. C'est-à-dire, en venant là ce soir, en vous regardant, ben, je fais apparaître ce monde de l'ethnocafé. Vous voyez ? Donc ma conscience est toujours un mouvement intentionnel et circulaire entre le sujet et l'objet, ou entre le sujet ouvert sur le monde de la vie comme un dialogue. Pour faire comprendre, illustrer, j'ai trouvé un extrait de Karl Graf Durkheim, là, qu'on a étudié avec Annick. C'est un bouquin qui s'appelle Le Centre de l'être, et je trouve qu'il dit très justement les choses. Bon, je pense que lui aussi était très imprégné de la philosophie phénoménologique. Alors il dit: nous devons accepter que tout ce qui nous entoure nous répond en fonction de ce que nous sommes. Nous sommes donc responsables, plus ou moins, de ce qui nous touche en tant que qualité. Vous êtes dans une pièce vide. Si elle se transforme en étable ou en temple, c'est votre façon d'être là qui en est la cause. Notre responsabilité vis-à-vis de ce qui nous entoure est donc très grande. Nous créons sans cesse la réalité qui nous crée. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans une pièce
vide,
mais il y a des chèvres d'un côté, et puis il y a une petite statuette de l'autre côté de Bouddha, certains vont voir, vont viser Bouddha, et par le sens, vont dire nous sommes dans un temple. Je suis allé dans un temple, c'était merveilleux. Et puis une autre, je caricature, mais c'est un peu. Donc, il a créé le temple. Parce que l'autre personne va viser les chèvres, il y a une étable, c'est trop mignon. Et en fait, par la visée, elle va créer une étable. Mais pourtant, c'est la même pièce. Et donc, l'intention. Cette capacité, on ne se lève pas le matin en disant je vais créer le monde, je vais créer une étable, ça fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en permanence, par la façon dont on vise les choses, on crée le monde. Moi je dis souvent à mes patients, si tous les matins vous regardez BFM TV, et une autre personne tous les matins va regarder le soleil se lever, si vous faites rencontrer les deux personnes, mais elles vont halluciner, dire mais on n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde, parce qu'il y en a une qui a créé un monde des images véhiculées par une certaine atmosphère, et l'autre qui va créer un monde différent. Et les gens vont se croire dans un monde, en plus on a toujours tendance à penser par la titude naturelle que c'est un monde commun, c'est-à-dire que le monde qu'on croit être, enfin, qui est notre monde qu'on vient de construire, on a toujours l'impression que tout le monde le partage, mais en fait, la façon dont on pense le monde est la façon dont on crée le monde par l'intention. Et donc, quand on dit on ne peut pas changer le monde, ben si, c'est très simple de changer le monde, il suffit de changer la visée.
Alors, moi, j'ai en tête une expérience, alors qui est plutôt amenée sur l'étude de l'attention visuelle, ciblée. Vous connaissez cette expérience où on passe un film avec des personnes qui se lancent une balle, qui jouent au basket, ouais, ouais. Et on demande de compter le nombre de passes. Et donc pendant quelques minutes, on est fixé sur compter le nombre de passes de la balle entre les joueurs.
Et à la fin,
on nous demande qu'est-ce que vous avez vu, combien il y avait de passes. Donc, les gens répondent au nombre de passes. Et ensuite, on revoit la séquence. Et en fait, pendant la séquence, il y a un homme déguisé en gorille qui passe dans le champ. Et on voit. On n'a pas vu. Beaucoup de gens ne voient pas. Ah oui, parce que leur intention,
c'était une chose.
Il y a un objectif. Cognitivement, ils étaient fixés sur cette tâche. Et le reste n'existe pas.
En fait. Ouais,
on a pris dans un entonnoir. Et ça, je trouve que ça illustre.
Maintenant que vous savez, ça va plus marcher. Mais...
Comment ?
Maintenant que vous connaissez, ça va plus marcher.
C'est hallucinant.
J'ai envie de parler de ce qui se passe là maintenant. Donc, dans cette présentation, si tu veux. Et je suis, moi, dans la question de l'intention, pour moi, ici, dans cette expérience. Il y a un moment où je pouvais me dire c'est tout des mots, etc. C'est compliqué, j'essaie de comprendre. Et puis, à un autre moment, je pouvais être avec écouter ta voix, les voix, quelque chose de plus doux, de plus poétique, et j'étais dans autre chose. Donc, là, ça parle aussi de mon intention à regarder ce qui apparaît à moi, qui va être à un certain niveau ou à un autre niveau. J'ai cet exemple, on peut se poser la question à cet instant de comment on fait apparaître ce qui est en train de se passer.
Et comment on crée sa soirée.
On crée sa soirée.
Complètement.
Et on se refait le film, on met bout à bout.
Les bouts de film.
Tout ça.
Et du coup, on arrive au mot, au grand mot du transcendantal. On dit que la phénoménologie du cerf est une phénoménologie, j'ai aussi du mal à le dire, transcendantale. C'est très simple, le terme transcendantal. Francis, on t'a pas perdu
Non,
ça va. Alors, un transcendantal, il y a un grand transcendantal qui est célèbre, vous voyez qui c'est ? Le grand transcendantal,
c'est Dieu.
C'est Dieu.
Ça y est, il applique.
Un transcendantal, c'est une instance qui à la fois constitue les choses et à la fois est hors du monde. Donc, typiquement, Dieu, c'est le transcendantal par excellence qui va créer le monde tout en étant un peu extérieur. En fait, Husserl dit, et je trouve ça très beau. Il ne dit pas que le transcendantal, c'est pas Dieu. Il dit en fait. Celui qui crée le monde, on vient de le dire, c'est soi, c'est l'ego. Il parle d'ego transcendantal. Il dit fondamentalement, l'ego est transcendantal parce que chacun constitue son monde par l'intention qu'il y met, par sa façon dont il vise les choses. Donc on est des êtres transcendantaux, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de constituer notre monde. Et si on ne fait pas cet exercice de la réduction de l'époque, on peut confondre le monde qu'on est en train de construire avec un monde commun qui serait global à tous. Et du coup, je te regarde, Francis, après, il y a plein de travaux en sciences humaines là-dessus, mais le scientifique, évidemment, ne fait pas exception. Le scientifique est un ego transcendantal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, par son travail, créer le monde.
Voilà. Puisque tu me provoques, je vais
c'est bonne guerre. Hein.
Non, ouais. Mais quelque chose que je voulais dire bientôt, mais puisque tu m'as provoqué, moi ce qui me passionne là-dedans, c'est de dire tout à fait, c'est pas la réflexion, c'est la perception. Si j'ai bien retenu ma leçon. Et les perceptions, c'est quoi ? Ce qu'on dit, je dirai pourquoi après. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect olfactif, le regard. Tu as parlé que du regard. Et moi, c'est l'odeur qui se dégage des bonbons, de choses, de mon voisin. J'ose pas dire de ma voisine, parce que ce serait pas correct de dire ça. Et aussi, par exemple, aussi, ben, ce que je lui ai fait, c'est le toucher que j'ai eu avec lui. Tout ça, c'est des choses qui me donnent ça. Alors, est-ce que c'est...
Ah oui, bien sûr, hein, il parle de... C'est l'essence, hein,
c'est, oui, c'est ça,
la perception sensorielle.
Et, ouais, c'est ça. Et toi, tu m'as parlé que, hein, que du regard.
C'est sûr que le regard est un peu plus facile. Oui.
Non, mais...
Il peut parler d'odeur, mais...
Mais pour toi, mais pour toi, mais pour moi, pour toi, mais pour moi, ce qui est très, très important, c'est le contact, c'est la perception, c'est ce qui est olfactif, et voir le goût des bonbons, quoi. Je garderai les bonbons que j'ai pu manger. Mes voisines sont aperçues que j'étais assez gourmand. Et donc, c'est ça. Mais est-ce que ça rentre là-dedans ou je suis
ah oui, dans, bah,
dans un délire habituel?
Ce qui apparaît par l'essence. Oui. Alors, l'essence amène à l'essence. C'est-à-dire que je vais, faire une sorte de petite parenthèse sur la plus ludique, sur la deuxième méthode pour accéder aux choses. Donc on a parlé de réduction phénoménologique, et il y a une autre réduction qui s'appelle la réduction eidétique.
La réduction ?
La réduction eidétique de eidos, en grec l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, Husserl il dit qu'on ne peut pas être dans l'objectivité, qu'on ne peut pas faire apparaître Bernadette dans son entièreté et dire que Bernadette est comme ça, écrire un bouquin sur elle et dire c'est tout là-dedans, elle est comme ça. Ça n'est pas possible. Et il dit pourtant on peut quand même essayer d'approcher l'essence de Bernadette. L'essence, c'est ce qui est fondamentalement constituant de Bernadette. Si on enlevait cette essence de Bernadette, elle n'existerait plus, puisqu'il est fondamentalement elle. Alors, c'est un peu... Là, pour le coup, ça demande vraiment un effort. C'est vraiment pas commun, mais je trouve ça drôle, donc je le partage. Encore une fois, il faut y revenir et y revenir. Et du coup, en fait, Husserl, il dit, il y a une façon d'accéder à l'essence des choses, c'est de faire varier cette chose dans notre imaginaire, de faire varier au maximum cette chose dans notre imaginaire, et que par cette variation va apparaître l'essence de cette chose. Alors, Maurice Merleau-Ponty, il a pris un exemple du citron. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle La chair du monde, et c'est un extrait du livre, où je fais cet exercice par rapport au citron, d'essayer de faire varier le citron par imaginaire pour... Alors, le citron, je pourrais vous dire, c'est un truc jaune, ça, quand on met dans la bouche, ça pique.
Acide.
Voilà, bon, une fois que j'ai dit ça, peut-être que je peux mieux approcher les choses. Et donc, alors, c'est pas mon habitude, mais je vais vous lire. Avec la presbytie, c'est quoi ? Je vais vous lire l'extrait où je. Enfin, donc, du coup, je vais faire cet exercice de faire varier par l'imaginaire les perceptions de. Enfin, ce que je peux connaître du citron. Je vois d'abord la sensation du citron sur ma langue et les contractions pénibles de mes glandes derrière les mandibules à son contact. Je vois sa forme comme deux seins de femme accolés. Je vois l'image du mouvement de l'huître au toucher de la goutte jaune pâle au repas de Noël. Celle des étals de citron sur les marchés du dimanche matin et les mains calleuses du maraîcher qui les saisissent. Celle de la texture de résistance du touilleur qui vise à faire sortir le jus de la tranche de citron au fond de l'eau gazeuse à la terrasse d'un café quand il fait chaud l'été. La drôle de petite bouteille en plastique jaune dans le bac en haut de la porte du réfrigérateur qui tente de ressembler au citron pour mieux réserver son jus à nos besoins de cuisine. La tarte au citron encore bien chaude et le regard de mon père interloqué tellement c'est bon. Le mojito que l'on prépare au milieu des amis habité du citron vert. Les citrons givrés de l'enfance, les sensations de nos mains qui pressent le citron sur les parois en verre ondulé du presse-citron, le pépin que l'on veut enlever sans y arriver, la première gorgée de Schweppes Lemon frais, le citron pendu à son arbre croisé lors de ce beau voyage avec Anna il y a des années au Portugal, la feuille de citronnier et sa raideur, le morceau de zeste qui se perd sur la table à peine coupée, l'odeur qui envahit toute la tête puis le corps à l'approche de la petite fiole d'huile essentielle de citron pour commencer une méditation au parc le matin. Donc en fait, Husserl, il invite à faire cette variation, et là, peut-être que vous sentez un peu que par cette variation, par l'imaginaire, on arrive peut-être à pressentir ce que c'est que l'essence du citron.
Parce qu'il s'attache à rien. Rien qui met. Il s'attache à rien.
Je pense qu'il fait varier les perspectives.
Il accueille tout.
Il accueille tout. Lui vient, et en fait, c'est vraiment l'outil de l'imaginaire dont on parlera beaucoup dans 15 jours. Où en fait, L'imaginaire permet d'amplifier, de ramener des esquisses vécues. Donc parce que là, quand on est devant le citron, bah, il va être comme ça, mais on a déjà souvent été devant un citron. Et du coup, il y a toute, enfin, l'imaginaire permet d'amplifier les esquisses. Et du coup, pour le coup, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin que la seule apparition du phénomène. Donc voilà.
Ça permet de voir, c'est indéfinissable.
Ça permet d'aller au-delà de la définition.
Il y a une petite représentation qui est là autour de l'objet.
Je vais en terminer sur.
C'est intéressant de voir toutes les frontières aussi. À partir de quel moment, dans ses variations, il perd les dessins du citron. Pour lui, c'est plus un citron. Et je pense que c'est vrai que si on compare d'une personne à l'autre, il y a des personnes pour qui, je sais pas forcément d'exemple avec le citron, mais un certain état du citron n'est plus du citron, et pour une autre personne, ça pourrait être un citron. Où il y aurait juste un extrait de citron, mais qui serait tellement éloigné que pour un tel, ce serait plus du tout du citron, parce qu'il n'aurait pas du tout l'idée que ça a été fait à partir de citron. Peut-être qu'il y a des médicaments dans lesquels il y a des extraits de citron, mais qu'on n'en a pas du tout conscience.
Et tu vois, tu amplifies le.
C'est ça.
Tu aides à accéder à des sachets.
À part pour un pharmacien.
Moi, je me demandais si ça ne recoupait pas la même réalité, là, les deux réductions phénoménologiques et idétiques, que finalement. Je ne sais pas si on réduit le citron. Au niveau phénoménologique, on va à son essence, est-ce qu'on n'arriverait pas à la même chose?
Ben, in fine, c'est pour arriver à la chose même.
Oui.
Mais à mieux voir le citron. Si tu veux, en fait, quand je vais voir la mandarine, là, ben, j'ai tous mes présupposés sur la mandarine qui fait qu'il y a une sorte de fainéantise, ce qui fait que je ne vais pas avoir ce regard aiguisé, tu vois, ça c'est la réduction phénoménologique. Oublie que c'est chiant à peler, que ça pique la bouche, pour voir vraiment. Et je pense que la variation eidétique aussi amène à mieux voir, in fine, la réalité.
Est-ce que vous vous rappelez, on a fait un exercice comme ça. Et qu'est-ce que vous diriez que c'est comme type d'approche? C'est plutôt
une phénoménologique.
Regarder avec un regard neuf, ouais, c'est ça, mes trois parenthèses.
Je termine juste sur la notion de l'imagination qui introduira la prochaine séance. La prochaine fois, on parlera de la rencontre de l'autre si l'autre apparaît uniquement pour moi, dans quelle mesure j'ai accès finalement à l'autre dans sa réalité? Et donc Husserl, il a beaucoup été accusé de ce qu'on appelle le solipsisme, en fait, que sa philosophie finalement est une philosophie de la solitude, on est tout seul avec soi. Et donc lui, il s'est vraiment défendu contre cette idée. Et voilà, un des accès à l'autre, c'est l'imaginaire, mais on en parlera la prochaine fois. Et donc l'imagination, pour Husserl, c'est l'accès aux essences des choses en partant de la donnée des faits. Donc en fait, lui, il est un peu contre le fait, c'est-à-dire il dit qu'il ne faut pas s'arrêter au fait, et que finalement, l'imagination va permettre de dépasser le seule chose qui se passe dans le fait. Et pour parler de la poésie, donc j'ai trouvé une fois la poésie citée dans ses textes, enfin en tout cas les peu de textes que j'ai lu de lui, enfin c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à son œuvre globale. Il dit qu'en fait la poésie va être utile parce que ça permet d'exercer l'imagination, de nourrir l'imagination, de récolter des images qui vont fertiliser nos observations ou nos intuitions. Donc pour terminer, je vous lis un de ces textes. Finalement, je n'ai pas lu les autres, j'ai senti que ça allait être trop chargé. Alors c'est un texte dans les idées directrices pour une phénoménologie. Il importe d'exercer abondamment l'imagination, à atteindre la clarification parfaite exigée ici, à transformer librement les données de l'imagination. Mais auparavant, il lui faut les fertiliser par des observations aussi riches et exactes que possible sur le plan de l'intuition originaire. Cette influence fécondante n'implique point naturellement que l'expérience comme telle joue le rôle d'une source de validité. On peut tirer à partie extraordinaire des exemples fournis par l'histoire et dans une mesure encore plus ample, par l'art et en particulier par la poésie. Sans doute, ce sont des fictions, mais l'originalité dans l'intervention des formes, la richesse des détails, le développement sans lacune de la motivation, les élève très au-dessus des créations de notre propre imagination. La puissance suggestive des moyens de représentation dont dispose l'artiste leur permet de se transposer avec une particulière aisance dans des images parfaitement claires dès qu'on les a saisies et comprises. Ainsi peut-on dire véritablement, si on aime les paradoxes, et à condition de bien entendre le sens ambigu en respectant la stricte vérité, la fiction, entre guillemets, constitue l'élément vital de la phénoménologie, comme de toutes les sciences eidétiques. La fiction est la source où s'alimente la connaissance des vérités éternelles. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ce qui est dit là, c'est vraiment le principe de notre travail en forêt, où on sollicite vraiment l'imaginaire, où on va inviter la personne à partir dans l'imaginaire, à partir dans les images, pour rencontrer autrement la réalité, pour amplifier la réalité, pour changer de direction, d'intention et du coup créer un monde différent. Le dernier mot, je vous ai parlé de trois méthodes, la réduction phénoménologique, la réduction eidétique, et il y a une troisième méthode qui est la réduction transcendantale, où en permanence, alors si vous voulez comprendre, parce qu'en fait les réductions, l'idée c'est de comprendre le fonctionnement de notre conscience, donc qui est la base de la science, donc si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement de la conscience, bah, il faut sans cesse être dans une réduction transcendantale, c'est-à-dire se dire, là, je suis en train de créer le monde. En permanence, vous dire ça, comme tu disais tout à l'heure sur la soirée, là, je suis en train de créer le monde. Et quand on prend conscience qu'on est en train de créer les choses, on rencontre mieux les choses parce qu'on sait qu'on est dans un processus de création. Voilà.
Bravo. Merci quand même. Hein.